Voilà, nous pouvons, nous avons chanté ce chant comme une prière, que le Seigneur ouvre maintenant sa parole à nos cœurs et que nous soyons attentifs. Nous continuons nos lectures dans l'évangile de Marc, que nous avons entamé en début septembre, nous le faisons de façon plus ou moins suivie, avec une petite exception à la semaine passée. Mais donc nous reprenons en Marc 2, 14-17. Marc 2, versets 14 à 17. On peut appeler ça Lévi, appel, controverse et réponse de Jésus. C'est la conversion de Lévi qui deviendra Matthieu. Mais dans notre texte, on parle surtout de Lévi. On va essayer de trouver une explication. En passant, Jésus vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Et Jésus lui dit « Suis-moi ». Et Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent à table aussi avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Mais pourquoi ?» Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus ayant entendu, et il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Amen. Alors nous poursuivons notre investigation dans l'évangile de Marc. Et nous en arrivons à l'appel d'un nouveau disciple, Lévi. En quelques versets, nous avons trois situations. Donc l'appel de Lévi, le grand festin et les critiques, les controverses des scribes et des pharisiens qui apparaissent pour la première fois pharisiens dans ce passage, dans l'évangile de Marc, qui contestent l'attitude de Jésus. Et puis, la réponse de Jésus qui a tout entendu. Alors tout d'abord, ce qui est le plus clair encore, ce qui apparaît en premier, c'est l'appel de Lévi. Il est assis dans le bureau des péages. Alors dans la Bible, assis dans l'ombre et les ténèbres de la mort, assis ici au bureau des péages. C'est la position, vraiment, ce n'est pas anodin qu'il soit assis. Bien sûr, il était assis. Mais ça dit bien son état aussi spirituel. Capernaum. À Capernaum se trouvaient de nombreuses frontières, on l'a dit. Il suffisait de jeter une pierre à droite ou à gauche, on était dans un pays différent, presque. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de douanes. Il y avait beaucoup de douanes et donc beaucoup de percepteurs. Et Lévi est un de ces nombreux percepteurs. Il percevait des taxes pour les Romains, pour la puissance d'occupation. La perception de taxes était confiée aux publicains, moyennant un prix forfaitaire. Et donc, une fois qu'ils avaient réglé le prix, ils avaient tendance et ils avaient intérêt à exiger le maximum pour se rembourser et pour trouver leur profit. Et donc on peut dire deux choses. D'abord, ils s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens, qui étaient pour la plupart pauvres, donc ils étaient considérés comme des rapaces sans pitié. Et puis deuxièmement, ils travaillaient directement pour les Romains. Alors ils avaient des relations permanentes avec eux. Et donc c'était source d'idolâtrie. Les Romains, les idolâtres, avec une vie d'impureté, avec ne respectaient pas les commandements de Dieu, et une vie d'immoralité. Donc ils étaient au contact avec l'idolâtrie, l'impureté, l'immoralité du monde romain et du monde grec. Alors on peut dire deux choses. C'était d'abord un homme, donc sur Lévi, c'était un jeune homme attiré par la vie facile. C'était un opportuniste, c'était un ambitieux qui était prêt à tout. Et puis en même temps, c'était quelqu'un de haï par les autres, de méprisé par tout bon juif, comme un lépreux. En Matthieu 1, on voit le lépreux qui était laissé loin des gens, qu'on chassait loin des gens, on ne voulait aucun contact avec leur impureté. Eh bien, c'est la même chose pour ces publicains. Alors, il était, hein, vu tout ça, il est absolument impensable que Jésus choisisse un péager, donc un publicain, comme disciple, et qu'il s'assoie, qu'il accepte dans un second temps de s'asseoir à table avec lui. Hein, imaginez ça. Et pourtant, il le fait. Hein. Alors, il le fait comme il a tendu la main au lépreux. Hein. En Marc chapitre 1, il tend la main au lépreux. Il se laisse toucher, il touche hein, ce lépreux. Et le lépreux est purifié. Hein. Et de même maintenant, hein, il appelle Lévi à devenir un de ses disciples, un des 12, hein, une colonne de l'Église de tous les temps. Alors ça me rappelle que Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. L'appel de Lévi met en valeur la grâce de Dieu. Dieu appelle qui il veut, quand il veut. Il fait grâce. Et nous sommes tous dépositaires de sa grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et donc Lévi est vraiment un emblème de la grâce de Dieu. Enfoncé, assis profondément, enfoncé dans le péché. Incapable de chercher le salut jusqu'à ce que le Christ l'appelle. Et le Christ lui dit, suis-moi. C'est comme il a dit à Lazare, sors du tombeau. Il l'a fait passer de la vie à la mort. Et en disant, suis-moi, eh bien, il le fait passer de la vie à la mort. Suis-moi, ça veut dire, je t'appelle. Je te donnerai la force que tu n'as pas encore. Tu peux me faire confiance. Et ça nous rappelle une chose importante dans la Bible, l'ordre que le Seigneur donne à, et ça nous rappelle l'ordre que le Seigneur donne à l'homme paralysé aussi, hein, juste avant. Hein, la semaine, on avait vu ça il y a 15 jours, au début de Matthieu, hein, de Marc 2. Quand Jésus dit au paralysé de prendre son lit et de se lever, eh bien cet homme ne pouvait pas faire ce qui lui était ordonné. Mais il a quand même obéi. Et la puissance de Jésus accompagner l'ordre de Jésus. Seule l'obéissance immédiate est nécessaire. Et donc pour Matthieu, c'est bien ça. Matthieu, il est conscient que Jésus appelle les pécheurs et les invite à changer de comportement, bien sûr. C'est ce que Jésus veut faire dans la vie de Lévi, de Matthieu. Mais en même temps, celui qui appelle les pécheurs et qui les invite à changer de comportement, il est celui qui attire à lui les pécheurs par son pouvoir souverain. C'est celui qui brise leurs chaînes. C'est celui qui fait d'eux de nouvelles créatures. Alors c'est là l'œuvre de la grâce de Dieu. Et le chrétien aujourd'hui peut dire la même chose que ce que pouvait dire à peu près Lévi-Matthieu. Le chrétien peut dire « Je sais que j'ai cherché le Christ ». C'est moi qui me suis repenti, c'est moi qui me suis tourné vers le Seigneur. Mais aussi, je sais que je ne l'ai fait que parce que Dieu avait déjà commencé au préalable à se mettre à ma propre recherche. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Et par exemple, bien avant que je ne commence à réfléchir sérieusement aux choses de Dieu, le Seigneur avait déjà poussé ma famille, des amis, à prier pour moi. Bien avant que je n'en vienne à désirer le pardon de mes péchés, le Seigneur m'avait déjà ouvert les yeux sur le néant de ma vie, sur l'errance de ma vie, loin de Dieu. Et c'est le Seigneur qui a ôté aussi tous les appuis sur lesquels je me reposais jusqu'alors, appuis humains, bien fragiles et éphémères. C'est lui qui a dirigé mes pas vers le bon endroit où m'attendait l'annonce de l'Évangile, vers la bonne personne, etc. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas le fruit du hasard si le prédicateur ce jour-là avait choisi le texte de la Bible qui me convenait le mieux, qui a pénétré en moi comme une flèche. Ce n'est pas mon intelligence naturelle qui m'a permis ce jour-là de comprendre ce qui me semblait auparavant opaque, folie, boniment. Dieu a fait luire sa lumière dans mes ténèbres à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui se passe pour Matthieu, pour Lévi. Alors, il est dit que Lévi laissa tout et le suivit. Alors, sans doute, il a laissé ses affaires en plan. Il a laissé, en tout cas, ses affaires pour suivre Jésus. Il a accepté, en faisant ça, une réduction importante de revenus. Imaginez, un homme bien payé, un homme avec des revenus importants. Mais qui saurait comparer cela, hein, aux richesses éternelles reçues en échange ce jour-là et à partir de ce jour-là, hein. Il n'y a aucune commune mesure. Et puis on peut dire aussi que nous ne pouvons, le fait que Lévi laissa tout et le suivit, hein, eh bien nous ne pouvons jamais désespérer du salut de quelqu'un. Voilà ce que nous dit ce passage. Hein. Celui qui a appelé Lévi vit toujours. Hein. Il est ressuscité, il vit et règne aujourd'hui. Et il œuvre toujours dans les cœurs par son Esprit Saint et par sa parole. Le temps des miracles, des conversions, hein, profondes, n'est pas passé. L'amour de l'argent, hier comme aujourd'hui, exerce toujours une puissance énorme sur les cœurs. Et ce n'est pas par hasard que Jésus parle de la puissance de l'argent plus qu'aucune autre puissance de l'Évangile. Mais l'appel du Christ est encore plus puissant, puisqu'il a, malgré la puissance de l'argent, il a réussi à arracher Lévi à cette puissance. Eh bien, ça nous conforte, hein, ça nous encourage quand nous prions pour quelqu'un. Personne n'est trop éloigné, personne n'est trop inaccessible à la grâce et à l'amour de Dieu. Et ça nous incite à espérer continuellement et aussi à prier, hein, le Dieu souverain pour tous. Alors, on peut aussi dire qu'il y a dans ce passage une illustration de la grâce de Dieu, hein, on va y revenir, mais aussi de sa sagesse profonde. Et ce n'est pas par hasard que ce soit Lévi, hein, qui soit appelé, et ce n'est pas par hasard, hein, que Dieu va faire un apôtre et un évangéliste de lui. Alors Lévi, si on pense un peu à l'Ancien Testament, on ne connaît plus beaucoup l'Ancien Testament, beaucoup de gens ne le connaissent plus dans nos églises, hein. Ils connaissent mal leur Bible, il faut bien le dire. Mais Lévi, ça devrait nous faire penser au Lévi, fils de Jacob. Lévi, eh bien, est la reproduction du premier Lévi, en gros. Hein. Et le premier Lévi, c'était un traître, un trompeur. Hein. On voit qu'il a trucidé pas mal de gens. Hein. Et il est considéré comme un traître, un trompeur en Genèse 49, hein, quand il y a le partage entre les tribus. Mais Dieu va faire grâce à la tribu de Lévi. Elle n'aura pas d'héritage en Israël. Mais Dieu va faire de cette tribu une tribu fidèle envers le Seigneur, qui va observer sa parole et qui va enseigner ses ordonnances dans le peuple. Et la tribu de Lévi, elle avait plusieurs endroits dans tout Israël, plusieurs villes qui étaient à elle, pour enseigner le peuple, enseigner la parole de Dieu. Et on voit que voilà, c'est extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a un autre Lévi qui est aussi traître, qui est aussi trompeur, hein, et dont Dieu va faire un enseignant de première classe. Et c'est quelqu'un qui, Dieu ne l'a pas appelé par hasard, on le voit bien. C'est quelqu'un qui connaît déjà le grec et l'araméen, bien sûr, puisqu'il est en contact avec les Romains, connaît le grec. C'est un homme qui est habitué par ses fonctions à mettre de l'ordre, hein, à rassembler. C'est un trésorier, c'est un informaticien, on dirait aujourd'hui. Et il va faire de ce Lévi un Matthieu, un évangéliste, l'auteur du premier évangile dans notre Bible, dans notre Nouveau Testament. Et l'évangile de Matthieu, si vous l'avez lu, vous voyez que tout est bien ordonné. C'est un recueil ordonné des paroles et des actions de Jésus. Et avec des passages bien particuliers. Il y a le sermon sur la montagne aussi, un chef-d'œuvre en soi. Et donc, cet homme qui était tourné par sa profession vers la statistique, vers les chiffres, vers les nombres, va chercher avec soin dans les écrits de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est le Messie. Et l'évangile de Matthieu, il a cette particularité de montrer aux Juifs que Jésus est le Messie. C'est lui qui comporte plus de versets de l'Ancien Testament, de citations de l'Ancien Testament. Donc, j'en rajoute pas, c'est simplement pour dire que les dons naturels qu'avait Lévi ont été sanctifiés par l'Esprit de Dieu, consacrés à Dieu. Il a tout quitté, mais il a emporté deux choses avec lui, sa plume et son encre. Et sa plume et son encre, il les a consacrés à Dieu. Et Dieu les a utilisés pour son œuvre future d'évangéliste. Et ça nous ramène donc à l'idée également, pourquoi il l'a appelé Matthieu par la suite. Eh bien, Lévi était peut-être son nom donc, d'origine, Matthieu, don du Seigneur, don de l'Éternel. C'était le nom qu'il va désormais porter lors de son appel officiel. On va voir ça au chapitre 3, verset 18. Et Marc préfère utiliser ici le nom de Lévi, peut-être pour souligner que l'important c'est que Jésus a appelé un pécheur à le suivre et à lui consacrer sa vie. Ça aurait pu être n'importe quel disciple. Même si les autres ne s'appelaient pas Lévi, eh bien, tous étaient pécheurs. Et tous étaient l'objet de la grâce de Dieu. Tous ont été appelés par grâce. Et tous ont consacré tout ce qu'ils avaient au Seigneur pour qu'ils se servent d'eux. Alors, on peut maintenant aborder le problème du grand festin et des critiques plus rapidement. Jésus invite Lévi à le suivre, mais c'est finalement Jésus qui suit Lévi chez lui, jusque dans sa maison. En effet, on voit que Jésus accepte l'invitation à la table du collecteur d'impôts qui était Lévi. Juste. Et Luc nous indique que Matthieu, que Lévi, ordonna un grand festin dans sa maison. Alors, ça nous rappelle aussi deux choses à ce propos. La conversion est une cause de grande joie pour tout croyant. Et on veut célébrer sa joie, on veut la manifester. Et puis, donc le festin, là, c'est une manifestation d'une grande joie intérieure. Et puis, il y a ce festin organisé par Lévi pour que ses amis puissent aussi connaître son maître. Comment peuvent-ils connaître le maître s'il ne les invite pas chez lui avec Jésus? C'est donc son premier acte missionnaire, son premier acte d'évangéliste avant d'écrire l'évangile de Matthieu, ça sera ici. Et nous ne sommes pas l'évangéliste de Matthieu, mais nous pouvons nous aussi inviter nos amis. Et nos invitations peuvent aussi avoir ce motif, connaître Jésus. Alors, il invite les publicains et les pécheurs. Les publicains, les collecteurs d'impôts, les douaniers, les péagers, comme on les appelle, n'étaient pas des gens très appréciés de la population, on l'a vu, et des religieux, pharisiens. Mais ce texte n'est pas ambigu. Il associe d'emblée les publicains aux pécheurs. Alors, qui étaient les pécheurs? Nous sommes tous pécheurs. Mais ici, les pécheurs, dans la façon juive de penser, c'était plusieurs catégories de la population. Les pécheurs visés dans ce texte, eh bien, c'était d'abord les adultères, les prostituées, les faussaires de tous ordres. Et on y ajoute aussi tous ceux qui ont des métiers douteux, voire malhonnêtes. Par exemple, on considérait comme pêcheurs tous les métiers qui touchaient au transport, depuis le chamelier jusqu'au matelot. Puis tous ceux qui s'occupaient de commerce, parce que commerce et vol, à l'époque, ça voulait dire la même chose. Et puis, on ajoutait à la liste des pêcheurs les hommes dont la profession était moralement douteuse, à cause des rapports qu'ils entretenaient avec les femmes, les blanchisseurs, les camelots, les colporteurs, enfin, vous voyez. Donc, et puis on ajoutait encore tous ceux qui s'occupaient de tâches répugnantes, comme les tanneurs, les ramasseurs d'ordures. Donc ça fait du monde. Et j'ai donné cette liste pour montrer que c'est des gens très particuliers, des gens vers qui personne n'allait. Et Jésus y va en allant chez Matthieu. Partager un repas avec ces gens, c'était communier avec eux. À l'inverse, refuser de se mettre à table avec eux, c'était s'exclure pour se préserver de tout souillure et les tenir loin de soi. On imagine donc le scandale énorme auquel Jésus s'expose en invitant de tels hommes, de telles femmes à le suivre. Et les pharisiens, invitant Matthieu à le suivre donc et acceptant ce repas. Les pharisiens restent, eux, en retrait. Ils ne veulent pas mettre un pied dans un tel lieu. Ils ne veulent pas manger avec ces pécheurs. Ils surveillent de l'extérieur. Et ils interpellent de loin les disciples pour dire leur désapprobation. Le pharisien est légaliste. Il veut être sauvé par ses propres œuvres. Il pense pouvoir l'être. Le légaliste ne veut pas comprendre la grâce de Dieu envers ceux qui sont sans mérite et qui sont perdus sans cette grâce. Le légaliste est tellement habitué à la pensée que l'on gagne l'approbation de Dieu par ses mérites, hein, qu'il est choqué de voir Jésus s'approcher des pécheurs et manger avec eux pour leur annoncer l'évangile de la repentance et de la foi. Alors la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est un troisième point. Jésus répond avant les disciples parce qu'il a parfaitement entendu, hein, ce qu'il ne devait pas entendre. Il connaît les cœurs humains. Et pour répondre, il utilise un proverbe et précise sa mission. Une réponse brève, mais drôlement bien envoyée, on dirait aujourd'hui. Hein. Jésus exprime une vérité élémentaire. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Hein. Voilà. Pour la petite histoire, hier j'étais toute la journée au service d'urgence pour des coliques néphrétiques. C'est là qu'on remercie Dieu pour les médecins, hein, qui nous soignent. Les malades ont besoin de médecins. Mais la Bible va plus loin. Elle dit que le péché, hein, est un mal, hein, qui rend malade toute la vie, hein, toute la personne humaine. Le péché, c'est l'irruption d'une déviance, de l'ordre, de l'harmonie. Et tout est détraqué, hein, en profondeur. Il faut un médecin pour sauver du péché. Le médecin vient au secours d'un malade et c'est une de ses prérogatives de ne pas craindre la contamination. Or, s'extraire du monde des pécheurs, c'est s'éloigner des malades. Et Jésus pointe là l'attitude des scribes et des pharisiens qui fuient comme la peste, c'est le cas de le dire, tout risque de contamination et d'impureté. Cependant, Jésus, lui, fait le contraire. Il va toucher le mal et la maladie. Il va vers les malades, les impurs, les lépreux, les gens de mauvaise vie. Et il va dire, en tout cas tenter de dire, que ils peuvent se repentir et que la sainteté peut être contagieuse à l'instar du péché. Alors je suis venu pour les malades, dit-il. Il précise donc sa mission. Hein. Sa mission, bien sûr, c'est d'instruire, de faire connaître le message de Dieu, mais sa mission, c'est aussi de trouver de bons auditeurs, à savoir les pécheurs, les malades, qui ont besoin de lui. Il y a de l'ironie dans sa réponse. Il est clair que Jésus vise les scribes et leur orgueil spirituel. C'est comme s'il disait « Je ne suis pas venu appeler les justes ». Donc il le dit, hein, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Et toc, on a envie de dire. Hein. Et toc pour ceux qui se tiennent à l'écart et qui pensent être au-dessus, qui pensent être saints. Hein. Moi, Jésus dit « J'entre dans la mêlée ». Et tandis que les scribes sont loin de la table et du repas, moi j'entre dans la mêlée. Alors Jésus ne dit pas que les scribes sont justes et qu'ils n'ont pas besoin de lui, bien sûr. Tout homme a besoin de Jésus. Et il dit plutôt, ceux qui se placent eux-mêmes dans une position de juste n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de moi. Et pourtant, moi j'appelle ceux qui se reconnaissent malades, eux aussi sont malades. Et je veux devenir le médecin de tous. Donc Jésus se présente en qualité de médecin. Ce n'est pas fréquent qu'on appelle Jésus, hein, de ce titre. Jésus est le médecin. Hein. C'est une définition peu courante chez lui, mais elle est pourtant très claire, importante, et surtout chargée de sens. Hein. Sous la plume des prophètes de l'Ancien Testament, le super docteur, c'était Dieu. Pour quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament, je suis désolé, je le redis, on ne connaît plus l'Ancien Testament. Pour quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament, comme les Juifs à qui Jésus s'adresse, dire « je suis le médecin », ça voulait dire « je suis Dieu », hein, quelque part. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes qui attribuent à Dieu, hein, le titre de médecin. Osée 6, 1-3, par exemple. Allons, revenons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose toute la terre. Et Jérémie dit la même chose, Jérémie 30, 17. Je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. Déclaration de l'Éternel. Seulement 2 hein, déclarations pour dire ça, mais tout l'Ancien Testament présente, dans les prophètes surtout, le Seigneur, hein, comme le divin médecin. Et Jésus ici, hein, se présente, le Seigneur Jésus se présente comme le divin médecin, hein, capable de guérir réellement le pays et ses habitants. Et c'est à leur rencontre que Jésus veut aller. Hein. Alors concluons par deux vérités et deux principes. Deux vérités. Tout d'abord, la seule condition exigée pour la guérison spirituelle, c'est la reconnaissance de notre besoin. Jésus ne peut rien faire pour celui qui se croit juste. Celui-là se tient lui-même à l'écart de Dieu. Mais il est déjà plein de reconnaissance pour celui qui cherche, même bien imparfaitement, mais qui cherche en lui un secours. Première vérité. Deuxième vérité, l'importance de la miséricorde dans nos rapports avec les autres. Ça me rappelle Luc 15, la parabole du fils prodigue. Ouais, les jeunes qui sont allés au week-end de jeunes la semaine passée, ils ont entendu cette prédication. Et dans la parabole du fils prodigue, le père dit, il fallait se réjouir. Car il dit ça au fils aîné, qui est plein d'amertume. Il fallait se réjouir car ton frère que voilà mort est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Il fallait te réjouir de ça, avec moi. Et bien parfois aussi, nous avons de la peine à nous réjouir et de la miséricorde de Dieu. Et dans nos rapports, nous devons aussi faire preuve de miséricorde et de grâce, comme Dieu fait grâce. Alors deux principes. Le chrétien est appelé à respecter deux principes dans sa vie à la fois. Tout d'abord, le chrétien doit se séparer de tout ce qui peut le souiller moralement, le péché. Ça reste vrai aujourd'hui, mais pas à la manière des scribes. De façon intérieure, par une conversion, une nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais en même temps, le chrétien reste ouvert, tout en se séparant intérieurement, moralement, du péché, il reste ouvert à tous ceux qui sont dans le besoin spirituel, qui cherchent et tous ceux qui cherchent et ils cherchent à ramener tous ceux qui cherchent au Seigneur, à son Seigneur qui peut les sauver. Ce ne sont pas, dit Jésus à ses disciples, ce ne sont pas Jésus et ses disciples qui se sont souillés au contact de ces hommes et de ces femmes, mais c'est le contraire qui s'est produit. Ce sont ces hommes et ces femmes qui avaient soif de Dieu, qui ont été vivifiés par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à être des réveilleurs, là où la mort règne. Nous ne sommes pas des thermomètres qui donnons la même température ambiante, mais nous sommes des thermostats. Nous sommes appelés à apporter autre chose qui peut vraiment changer la température, qui peut changer les autres. Que Dieu nous soit en aide. Amen.